Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à l'organisation de l'islam de France, la fin du CFCM, Conseil français du culte musulman, qui a été remplacé par une nouvelle institution, le Forum pour l'islam de France, qui a tenu sa première réunion samedi dernier à Paris au Palais de l'Iéna. Et c'est vrai qu'on souhaitait interroger des observateurs et des gens aussi qui sont impliqués dans la vie de l'islam de France. Et on a le plaisir d'accueillir dans la première partie de l'émission Khalem Bedcher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes connu de nos auditeurs parce qu'on a déjà eu l'occasion de vous inviter plusieurs fois dans les émissions de la radio. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, laïque, à vocation éducative et qui mène énormément d'actions culturelles, sociales, historiques. Mais aujourd'hui, Khaled, ma première question, c'est plutôt de vous demander quel bilan vous tirez finalement de l'existence. Une existence qui a duré finalement un peu moins de deux décennies du CFCM et de la manière dont vous analysez la transformation en forum pour l'islam de France.
De prime abord, je voudrais saluer vos auditrices et vos auditeurs et leur dire tout mon respect et mon amitié. Maintenant, on répond directement à votre question. Oui, ce Conseil français du culte musulman a montré, sinon sa faillite, au moins ses limites. Et j'ai toujours eu l'occasion de dire que sa tare congénitale, ou si je puis dire son péché originel, résidait dans la manière qui a présidé à son instauration. Nous nous rappelons tous de ce fameux conclave de Nainville-les-Roches, cette ville de l'Essonne, qui a vu une réunion ayant rassemblé le ministre de l'Intérieur d'alors et quelques consultants dans un premier temps qui sont devenus membres d'un exécutif d'une instance représentant le culte. En plus, cette instance qui devait représenter le culte de l'islam dans notre pays a été minée par cette idée d'une présidence tournante faisant plaisir à des régimes étrangers à la souveraineté nationale. Donc le fait de prévoir une présidence marocaine, puis une autre algérienne et enfin une turque d'une manière circulaire, ce n'était pas acceptable finalement. Donc les musulmans d'abord, puis les pouvoirs publics par la suite, en ont tiré les conséquences.
Alors, effectivement.
Simplement, oui, je vous en
prie. Non, j'en prie que terminez.
Non, l'idée c'est que comme instance non reconnu désormais par les pouvoirs publics, c'est un fait et il faut en prendre acte, mais faut-il annoncer la dissolution? Il incombe cette fois-ci aux membres de cette instance, parce que comme toute loi de 1901, comme toute association régie par la loi de 1901, cette association pourrait subsister encore. Mais il incombe encore une fois à ses membres et à son bureau actuel d'en tirer les conséquences.
Alors effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'une gouvernance bloquée. Il y a eu aussi, semble-t-il, un détonateur à la crise et à ce blocage du CFCM. C'est le débat autour d'une charte voulue par le gouvernement et qui a été un petit peu le détonateur de ce que vous décrivez, c'est-à-dire une institution qui a peut-être été mal pensée au départ sur une vision d'un islam consulaire qui était, on va dire, peut-être l'islam d'il y a 20 ou 30 ans, mais qui correspond plus aujourd'hui à ce que vivent et à ce que sont la majorité des musulmans de France.
Vous avez tout à fait raison. les musulmans de France, qu'ils soient citoyens ou résidents, vivent une réalité française et la tradition religieuse islamique dans notre pays doit être vécue pleinement par des citoyens français avant tout. Auquel cas, il n'y a plus aucune raison de faire allégeance à des régimes étrangers, à des influences ou des puissances étrangères. Donc, et c'est vous qui avez utilisé le mot non sans raison, ce fameux islam consulaire a vécu, c'est une ère révolue et nous ne pouvons pas accepter l'inféodation à des États étrangers. Donc, cette raison première fait que le Conseil français du culte musulman, sur le modèle précédent, ne peut pas fonctionner.
Alors, la question qu'on peut se poser, et je vous la pose, c'est est-ce que l'islam de France a trouvé une nouvelle forme d'organisation dans ce forum pour l'islam de France, ou bien est-ce qu'on peut penser que c'est peut-être une étape de transition? Je pense notamment au recteur de la mosquée de Lyon, qui lui appelle à ce que ce forum soit plus représentatif avec l'organisation d'élections. Quelles élections, sur quel mode de scrutin, il ne le dit pas, mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire, voilà, peut-être qu'il fallait tirer un bilan d'arrêt du CSCM pour représenter l'islam de France, mais voilà, est-ce que le Forum pour l'islam est une étape ou est-ce que vous pensez qu'on peut avoir d'autres évolutions ultérieures?
Il me semble que l'appellation forum elle-même renvoie à une notion de débat, de dialogue, donc il me semble que c'est beaucoup plus une période transitoire, préparatoire, j'ose dire probatoire, à l'émanation d'une instance plus consolidée et plus représentative, non pas des musulmans, puisque les citoyens musulmans ne peuvent être représentés que politiquement, a fortiori dans un État démocratique et laïque. En revanche, une instance qui doit prendre en charge tout ce qui est inhérent à la pratique culturelle. Et là, il y a deux approches. Une proprement théologico-historique. Les musulmans de France sont d'obédience majoritairement sunnite. Or, dans le sunnisme, il n'y a pas de structure cléricale, il n'y a pas d'autorité centrale. Et aborder les choses par voie élective ou autrement, ça va être extrêmement difficile. À travers l'histoire, il y avait cette fameuse formule de ceux qui savent lier et délier, sous-entendu les chevaux des questions difficiles et complexes. Mais, et en même temps, le paradoxe est là, nous pourrions penser à une instance qui soit dirigée par des représentants élus ou désignés, pour peu, je souligne véritablement, que l'on résolve ou que l'on sorte d'un triptyque mortifère qui était, à travers l'histoire et sans vouloir généraliser, l'histoire récente française, l'illégitimité, l'incompétence et dans certains cas malheureusement la malhonnêteté. Et donc, si on a affaire à des hommes et des femmes légitime, la légitimité s'acquiert effectivement par l'élection, par la reconnaissance surtout des compétences théologiques et des compétences par l'action sur le terrain, et aussi la probité, l'intégrité morale. Si on a ces critères réunis et surtout que l'on veuille vivre pleinement et sereinement, et j'ajoute d'une manière normaliser, voire banaliser au sein de la République, ceci doit être possible, c'est possible et nous œuvrons inlassablement pour cela.
Alors parmi les chantiers, en tout cas les débats ouverts lors du premier forum pour l'islam de France, on a notamment la professionnalisation des imams, l'organisation des aumôneries, la sécurité des lieux de culte, parce que vous l'avez rappelé, le sujet, la création même du CFCM, c'était bien d'organiser, d'avoir des interlocuteurs pour l'État et les pouvoirs publics par rapport à l'organisation du culte musulman en France. Donc évidemment, le vide laissé par l'échec du CFCM, eh bien, doit être comblé. Le sera-t-il par le Forum pour l'Islam de France ? Nous le verrons bien, mais en tout cas, il y a un sujet qui a été ajouté à la demande des participants au Forum, c'est la question du financement. Financement notamment des lieux de culte et financement du culte. Est-ce que c'est pas aussi un peu autour de ce sujet-là que finalement les pouvoirs publics et les représentants du culte musulman tournent sans avoir réussi vraiment à trouver des solutions pérennes?
Oui, là aussi, votre question est à la fois pertinente et juste. Il faut régler, c'est toujours facile de dire il faut que, il n'y a qu'à, mais régler la question du financement. D'abord, le fait de se conformer à la loi, faire passer les édifices et lieux de culte, les lieux cultuels, les mosquées, les salles de prière, qui jusqu'à présent, pour certaines, étaient régies par des associations obéissant à la loi de 1901, doivent obéir cette fois-ci à la loi de 1905. Et ça me paraît impératif. Et il faut le faire pour toutes les mosquées de France. Ainsi, la gestion financière de ces lieux de culte va
mieux être contrôlée,
transparente. Et surtout, connue, affichée, avec une présentation comptable et avec des audits. Et en tout cas, le flux financier doit être fait de la manière la plus transparente et la plus intègre.
Rappelons juste, hein, c'est un point de droit, mais que le recours à l'association cultuelle loi 1905 implique un contrôle des comptes par un commissaire aux comptes, ce qui n'est pas le cas pour la forme association loi 1901.
Oui, et vous avez bien fait de rappeler ce point de loi, parce que jusqu'à présent, certaines mosquées ont une gestion totalement opaque de la récolte, de la collecte d'argent, et ça ne peut pas durer. Maintenant, les musulmans de France sont responsables, qu'ils soient encore une fois citoyens ou résidents, doivent subvenir aux besoins de la pratique de leur propre culte, y compris en prélevant, alors je ne dis plus taxes, je ne dis plus redevances, je parle plutôt de contributions ou des commissions sur le pèlerinage, y compris, hélas, sur certaines pompes funèbres, et surtout, sans vouloir élargir indéfiniment l'assiette du halal, puisque ça ne concerne in fine pour ceux qui sont dans l'orthopraxie et de stricte observance que la nourriture. Et en plus les dons, et le fait de s'acquitter de sa participation pour faire vivre le culte, cela doit permettre donc un financement interne à la composante islamique de la nation, sans recours systématique et indéfini au financement étranger.
Il y a un recours au financement étranger et il y a aussi souvent bien la nécessité pour les représentants locaux des cultes de discuter avec les pouvoirs publics et notamment avec les maires pour obtenir parfois des prêts de terrain qui, je dirais, allègent le fardeau que représente effectivement l'acquisition de terrain puis la construction de lieux de culte. Et c'est vrai que ça ne permet pas toujours des relations simples entre justement les élus locaux et les représentants des cultes.
Oui. Parce qu'il y a une suspicion sur la tradition religieuse islamique qui est anormale et elle ne doit pas perdurer. Il se trouve que dans notre pays, le vocable islam à lui seul est obsédant, hystérisant, inflammable, épineux et problématique. Il nous incombe, qui que nous soyons, d'aplanir toutes ces difficultés. C'est vrai que le prêt ou même les baux
amphithéotiques
peuvent régler la question. J'ajoute ça m'a valu quelques inimitiés de la part de certains fidèles musulmans, que si un besoin pour construire un lieu de culte se fait sentir, oui, il est légitime d'en construire. En revanche, l'important maintenant, c'est de construire plutôt des centres culturels, des écoles, des bibliothèques, des centres universitaires de type privé. C'est pour former à l'intelligence, à la connaissance, les fidèles musulmans davantage que de construire une énième mosquée. Je le rappelle, oui, le besoin, quand il se fait sentir, il y a lieu de construire une mosquée, mais à côté de cela, nous avons besoin davantage et surtout maintenant de centres culturels et de centres d'apprentissage des langues, de la connaissance et des humanités. C'est tout aussi important.
Eh bien, merci Khaled Benchercheh. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation pour l'Islam de France. Vous avez répondu avec la franchise qui vous caractérise à ces questions sur l'avenir de l'organisation du culte musulman en France, qui est aujourd'hui qui traverse une nouvelle étape, mais il y en aura sûrement d'autres, et donc on aura sans doute le plaisir de vous réinviter sur Radio Orient et peut-être dans l'émission et si on en parlait. En tout cas, je vous remercie.
Gardons la confiance, nous sommes sereins mais déterminés à sortir par le haut d'une situation qui a assez duré.
Espérons-le. En tout cas, on contribue, nous, à l'antenne, à ce débat, en donnant la parole de manière pluraliste à toutes les voix qui s'intéressent et qui questionnent ce sujet. À très bientôt. Merci,
Khaled. À très bientôt. Au revoir.
Au plaisir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Sur l'émission de cette semaine, nous avons le thème du passage du CFCM au Forum pour l'Islam de France, le FORIF. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de l'émission Hakim El Karaoui. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chef d'entreprise, essayiste, également président de l'association musulmane pour l'islam de France. Et il se trouve que cette semaine, vous êtes également chroniqueur pour le quotidien L'Opinion et vous avez écrit un article qui est un petit peu en lien avec le sujet de notre émission aujourd'hui, puisque vous considérez que le CFCM est arrivé au bout du chemin, si on peut dire. Bon, je crois que c'est un constat qui maintenant est relativement partagé, et que le FORIS, donc Forum de l'Islam de France, qui se tenait samedi à Paris, a vocation à remplacer le CFCM. D'abord, je voudrais juste vous entendre sur le bilan du CFCM, parce qu'il faut rappeler qu'avant, il n'y avait pas d'institution représentative du culte musulman en France. Avant de tourner la page, si je puis dire, quel bilan vous tirez de ces décennies CFCM ?
Écoutez, le bilan, pour paraphraser Georges Marchais, il est globalement négatif. Globalement négatif parce que au moment de la création du CFCM, je crois qu'il y avait 15 ou 16 groupes de travail. Il y en a un seul qui a vu le jour, celui sur les aumôneries. On a assisté pendant presque 20 ans à des querelles d'ego, des querelles politiques, notamment entre les Algériens et les Marocains, l'entrisme des Turcs. 1000 choses à milieu du quotidien des musulmans de France, à milieu des problèmes qui se posent aujourd'hui vis-à-vis d'eux, et puis à milieu aussi des grandes problématiques qu'il faut résoudre, la montée de la radicalisation, le terrorisme au nom de l'islam, et puis d'une certaine manière les attentes de la société française de ce point de vue-là. Donc le CFCM, qui était mal né, parce qu'on disait Conseil français du culte musulman, et on avait mis autour de la table des représentants des intérêts des puissances étrangères, il est mort 20 ans après, je dirais paix à son âme, et longue vie au FORIF ou à ce qui va lui succéder.
Alors effectivement, on a assisté à la naissance du FORIF, hein, voulu, souhaité par le gouvernement français, qui souhaite effectivement remplacer le CFCM par un autre interlocuteur. Alors c'est vrai que le CFCM, c'était, on va dire, l'islam consulaire, donc sans doute peut-être conçu avec 20 ans de retard. Est-ce que vous pensez que le Forum pour l'islam de France est une étape de transition, ou est-ce qu'il peut s'inscrire durablement dans le paysage et être réellement l'interlocuteur des pouvoirs publics pour traiter de tous les sujets qui tiennent à l'organisation du culte musulman en France?
Alors, on va voir, hein, parce que le FORIF, c'est pas exactement le remplaçant du CFCM, au sens où le FORIF, c'est un forum, comme son nom l'indique. C'est pas une organisation, c'est pas une association, c'est pas une institution, c'est une sorte de choura permanente qui se saisit des problèmes du jour ou de l'année, et qui essaye de travailler dessus et de proposer des solutions au pouvoir public, mais aussi aux médias, etc. Donc, c'est pas du tout le même type d'organisation, c'est calqué vraiment sur ce qui existe en Allemagne, qui marche pas trop bien, qui est pas non plus la panacée absolue, mais qui marche pas trop bien. Donc, est-ce que ça va s'implanter? Est-ce que ça va réussir? Je sais pas, ça dépend de beaucoup de conditions. La première, c'est il faut que la bienveillance qui existe aujourd'hui, la qualité des membres perdure, et que les gens continuent à avoir envie de travailler. Pour ça, il faut que ce qu'ils font soit entendu par les pouvoirs publics, mais aussi par les musulmans. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait, justement, du côté des musulmans, pas trop de dissensions, parce que le sport national, c'est toujours de dire du mal de celui qui essaye de faire quelque chose. Je caricature un peu, mais c'est malheureusement souvent le cas. Et puis, le troisième élément essentiel, c'est sur quoi, moi, j'ai pas mal travaillé, c'est qu'à un moment, il va falloir trouver des financements pour pouvoir mettre en œuvre les propositions des quatre groupes de travail du FORIF, lutter contre les actes anti-musulmans, l'aumônerie est financée par l'État, mais il y a la mise en œuvre de la loi séparatisme, hein, qui impose notamment de passer pour les mosquées de la loi de 1901 à la loi de 1905. Ça demande par exemple du conseil. Et puis il y a toute la question de la formation des imams qui demande aussi des financements. Et donc cet enjeu-là des financements, c'est aussi un enjeu essentiel.
Alors justement, vous avez cité les principaux ateliers de travail du FORIF, et à la demande des participants a été rajoutée justement la question du financement du culte musulman, qui figurait pas dans la première série d'ateliers de travail qui ont été abordés. Aujourd'hui, effectivement, le débat, il doit être ouvert sur ce sujet. C'est ce que nous disait Khaled Bencher. Si on n'arrive pas à traiter ce sujet-là, ça restera un petit peu un point aveugle de l'organisation du culte, parce que c'est un sujet autour duquel on tourne, mais sans trouver de solution aujourd'hui.
Alors, oui et non, parce que le financement, il existe. Le financement, c'est d'abord le financement des associations locales par les fidèles, les mosquées, les écoles coraniques, etc. Et ce financement, il est très important. Moi, j'ai calculé qu'il devait représenter entre 2 et 300 millions d'euros par an. Donc, de l'argent, il y a 3 millions de musulmans pratiquants de plus de 15 ans en France. Il y a la zakat, il y a l'aumône pendant Ramadan, il y a un secteur caritatif qui existe, il y a une grande générosité des fidèles. Donc en fait, de l'argent, il y en a. Il y a encore un peu d'argent des pays étrangers, mais qui doit représenter 10% du total des dons. Donc le fantasme sur l'argent étranger, c'est vraiment un fantasme, c'est plus la réalité. Même si, il y en a encore, l'Algérie donne 2 millions d'euros à la mosquée de Paris, le Maroc donne 6 ou 7 millions aux différentes associations et fédérations marocaines, les Turcs évidemment, etc. Mais pour réussir, le sujet, c'est comment on fait pour collecter l'argent et pour faire en sorte que cet argent aille financer des causes nationales. Parce que finalement, on voit, cet argent, il finance des actions locales. Mais l'enjeu politique, en fait, la nécessité face à laquelle on est aujourd'hui, c'est la formation des imams, c'est aussi tout le travail théologique. Parce qu'on ne peut pas imaginer que la théologie aujourd'hui, ce soit celle qui s'est imposée au Maghreb il y a 20 ans, pour ne pas parler de l'Arabie Saoudite, quelques décennies encore avant. Et puis le troisième sujet, il est très opérationnel. l'islam aujourd'hui, l'islam des jeunes, ce n'est pas l'islam des mosquées, c'est l'islam des réseaux sociaux, c'est l'islam des influenceurs. Et il faut absolument être présent sur ces réseaux, il faut avoir des influenceurs qui vont diffuser une version de l'islam un peu différente de celle qu'on entend, influencée par les salafistes, influencée par les fréristes, influencée par des problématiques identitaires, avec souvent une réflexion de très mauvaise qualité. Donc, de l'argent, il y en a, des besoins, il y en a aussi. Ce qu'il faut, c'est réussir à créer la confiance pour que les gens qui donnent aient envie de donner pour ces causes nationales.
Alors, vous l'avez dit, effectivement, l'argent, il y en a, c'est essentiellement d'ailleurs les fidèles, les pratiquants qui aident au financement des lieux de culte. Après, ce que disait Khaled Bencher, c'est que le souci, c'était justement un souci de transparence auquel doit contribuer d'ailleurs le passage de la loi 1901 à la loi 1905 pour la gestion des lieux de culte et pour la gestion aussi de tout cet argent qui est récupéré auprès des fidèles, mais bon, qui n'est pas toujours forcément utilisé comme on pourrait le souhaiter.
Bah oui, c'est pour ça. Pardon, je
vous interromps. J'en prie.
C'est pour ça que la loi dite séparatisme ou la loi confortant les principes de la République, c'est une très bonne nouvelle pour les musulmans, pour les fidèles, parce que ça va obliger les présidents de mosquées à transformer le statut de la mosquée, à passer de 1901 à 1905. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que une mosquée de 1905 peut déduire les dons à hauteur de 66%. Vous donnez 100 euros, on vous rend sur vos impôts 66 euros. Donc c'est extrêmement intéressant pour les gestionnaires de mosquées, pour autant que les gens payent des impôts. La deuxième chose, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts fonciers. Donc là aussi, c'est très très important. La contrainte, c'est qu'il faut être transparent, il faut déposer ses comptes, il faut avoir un commissaire aux comptes et il faut délivrer des rescrits fiscaux. Mais le gagnant de tout ça, c'est le fidèle. Parce que le fidèle qui donne de l'argent, ça va l'aider à avoir la traçabilité de cet argent, la transparence de cet argent. Moi, j'étais très favorable, j'ai beaucoup poussé pour qu'il y ait cette évolution législative. La deuxième chose, c'est l'idée que je porte par ailleurs, c'est dire, on a un grand problème, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, tout le monde sait, il n'est pas très bien organisé, c'est pas seulement la faute des agences, qu'il est trop cher et qu'il y a toute une série d'intermédiaires. Et l'idée que j'ai proposée, qui a été présentée samedi, et qui servira de base au groupe de travail, mais il n'y aura pas que cette idée, c'est de dire on va créer une organisation qui va essayer de réguler le pèlerinage, donc d'améliorer les services en contrôlant les agences. Et le produit de cette régulation ne va pas être privatisé, il va être mis au service du financement de projets d'intérêt nationaux. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que j'espère que cet organisme sera connu et reconnu par les fidèles, et qu'ensuite, quand cet organisme dira on fait des appels à projets, et puis on vous présente les projets, et on vous demande de les financer, il y aura suffisamment de confiance et de transparence pour que l'argent vienne, pour l'intérêt des musulmans, pour qu'ils aient des imams de meilleure qualité, pour combattre la haine dont ils sont l'objet tous les jours, et on le voit malheureusement pendant cette campagne électorale encore plus fort qu'avant. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Et j'espère que donc, avec ce système, qui est vraiment fondé sur l'idée de « on vous rend un service qui est rémunéré, et le produit de ce service est mis au service de la collectivité », on va pouvoir avancer.
Alors, revenons un instant sur la structuration de l'islam de France. Donc, vous dites, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, que c'est peut-être un grand pas dans cette direction-là que cette première réunion du Forif. Mais il y a aussi des voix qui s'élèvent, et je pense notamment au recteur de la mosquée de Lyon, pour dire que le statu quo n'est pas forcément souhaitable et qu'il faudrait donner une plus grande représentativité à ce forum, ou bien peut-être créer à côté une organisation représentative à partir, on va dire, des lieux de culte, à partir de la base, et sous un format de représentation qui peut être départemental ou autre, je ne sais pas, mais que vous entendez aussi ces voix qui questionnent finalement la représentativité de ces instances, parce que c'est pas une institution, vous l'avez dit, mais bon, c'est quand même une instance de débat.
Le Forif n'a absolument pas l'ambition d'être représentatif, ou je dirais même la prétention être représentatif. Le Forif, ce sont des personnalités de bonne volonté qui travaillent depuis de nombreuses années dans les départements, sur le terrain, qui ont eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec les préfectures et qui ont été identifiés et réunis par les préfectures. Donc ça, ça fait pas un organisme représentatif. Et vous savez, moi, je suis assez méfiant sur ce débat sur la représentativité, parce que quoi qu'on fasse, on sera jamais représentatif. Et je crois pas que les autres religions, je crois pas que l'Église catholique, vous savez, soit représentative du catholicisme français. Je suis même pas sûr que la Fédération protestante soit représentative des protestants français. Moi, je crois que la légitimité, c'est plus la question de la légitimité qui se pose. La légitimité, elle va venir de l'efficacité. Le CFCM, ça a été 20 ans d'inefficacité. Si demain, le FORIF réussit à faire des choses concrètes pour les fidèles, pour les croyants, pour les citoyens de confession musulmane, ben, je pense qu'il va s'en créer et que les gens vont reconnaître son utilité. Peut-être que dans un deuxième temps, il y aura des élections, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on fait des élections, quand il n'y a pas d'objet, ben, les gens se battent pour le pouvoir, pour être présents sur la photo, pour être à côté du ministre, du président de la République, mais ils se moquent totalement de faire des choses. Et puis, la deuxième chose, c'est, j'entends Kamel Kaptan, mais Kamel Kaptan, il faut absolument qu'il accepte de partager un petit peu. Il a une carte halal, je pense que ce serait important qu'il dise que devient l'argent qui est généré par cette carte halal, par le certificateur, qu'il fasse la transparence sur les dons. Lui, comme tous les gestionnaires de lieux de culte, les Français musulmans aujourd'hui, ils sont adultes, ils veulent être traités comme les autres, ils veulent la transparence, le professionnalisme, ils veulent que leur argent, ils savent ce qu'il va devenir. Donc c'est vrai pour tout le monde, pour les petites mosquées, pour les grandes mosquées. Kamel Kaptan disait, il faut encore du temps pour passer en 1905, là samedi. Il dit non, ça fait, le ministre lui a dit, ça fait 115 ans que la loi de 1905 existe, il faut l'utiliser, elle est faite pour ça, pour les lieux de culte. Donc moi vraiment, je crois qu'il y a un changement de génération, c'est ça le FORIF. Le FORIF, c'est des Français. Le CFCM, c'était des étrangers. C'est des Français qui ont des us et coutumes français, des exigences françaises au niveau de la société française. Et il faut maintenant que tout le monde essaye de travailler main dans la main pour l'intérêt général, et pas pour les intérêts particuliers ou les intérêts des puissances étrangères. S'il y a cet état d'esprit, on va réussir. Si chacun veut garder son précaré, ses petits intérêts, ben, ça va échouer une nouvelle fois. Et les perdants, ce seront évidemment les musulmans de France.
Alors ça, c'est l'avenir qui le dira. Peut-être une dernière question. Est-ce que finalement, puisque vous avez cité les autres grandes religions monothéistes, mais est-ce que la différence entre l'islam et justement le catholicisme ou le protestantisme, c'est pas que la religion sunnite étant par définition une religion sans clergé, est-ce que justement la question de la représentation de la légitimité ne s'y pose pas avec un peu plus d'acuité que bah, les autres religions où il y a, ma foi, quand même le Vatican qui désigne les principaux acteurs du clergé catholique, ou les protestants qui ont aussi un mode de représentation de très ancien, comme d'ailleurs la religion juive.
Alors je suis pas d'accord avec vous. Je crois que l'Église catholique, c'est l'exception. Avec cette hiérarchie très forte, cette légitimité très forte du pape qui ensuite descend dans plus bas jusqu'aux fidèles. Les protestants, vous savez, il y a, je crois, 60 ou 70 églises protestantes différentes en France.
C'est vrai. C'est très horizontal.
Qui les réunit. Et François Claveroli dit, vous savez, moi je suis pas représentatif des protestants. Je travaille dans le sens des valeurs et des intérêts des protestants. Je suis pas représentatif. L'islam, c'est pareil d'une certaine manière. Il y a plein de mosquées, il y a plein de courants, il y a plein de tendances, il y a plein de... Mais le sujet, c'est pas faire un clergé hiérarchique avec une seule parole qui dit la vérité et tout le monde aligné derrière. D'ailleurs, c'est plus comme ça que ça se passe dans la société française aujourd'hui ou en Occident. Le sujet, c'est que des gens de bonne volonté travaillent ensemble pour un intérêt commun. Et pour ça, on n'a pas besoin de clergé. On a besoin d'une forme de conscience politique, au sens de la vie de la cité. Les musulmans doivent faire face à beaucoup de dangers qui viennent de chez eux, des terroristes, qui viennent de l'extérieur, l'extrême droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Et il faut qu'ils soient absolument unis. Bon, et j'espère que cette nouvelle génération va réussir cette unité. Et d'une certaine manière, ce que j'ai vu samedi m'a franchement rendu assez optimiste. Parce que j'ai vu des hommes et des femmes de qualité, beaucoup de femmes d'ailleurs très engagées, des médecins, des avocates, des cadres d'entreprise qui faisaient des comptes rendus, qui étaient brillants. Et leur problème, c'était pas, encore une fois, de se pousser du col, d'être sur la photo. ça change tout et je pense que vraiment c'est la chance de cette nouvelle génération de Français de confession musulmane.
Eh bien, merci beaucoup, Hakim Elch. Je pense qu'on va terminer sur cette note d'optimisme.
Merci. De temps en temps, on peut être optimiste.
Oui, il faut l'être. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, également président de l'Association musulmane pour l'islam de France, et que vous étiez donc participant à ce nouveau forum pour l'islam de France. Et donc, on espère qu'on aura d'autres occasions de vous inviter dans l'émission et de reparler de ces sujets qui vous passionnent et qui intéressent nos auditeurs.
Avec grand plaisir.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.